Nom,
Autissier,
prénom.
Isabelle.
Bonjour Isabelle,
Bonjour.
merci. Merci d'être parmi nous pour parler de ton histoire de Capornière. Je suppose qu'avant de parler de Caporn, c'est une longue histoire qui commence.
Oui, bah oui, c'est une histoire qui commence quand on apprend à naviguer. Donc pour moi, c'est une histoire qui commence toute petite fille en Bretagne avec des parents qui avaient un vaurien à l'époque, un petit dériveur en bois, et donc qu'emmenaient leurs enfants tout simplement faire du bateau et donc apprendre le bateau.
Et donc c'est avec ton papa et tes sœurs que tu as
Oui,
pris.
que j'ai commencé à naviguer. Bah d'abord, oui, plutôt avec mon père qui adorait ça. Maman aimait bien ça aussi. Et après le Vaurien, ils ont eu successivement des bateaux à cabine qui permettaient de partir plus loin. Donc il y a eu un corsaire, un mousquetaire, et puis un bateau qui s'appelait un coquelicot qu'ils ont eu en copropriété avec des amis qui faisait presque 10 mètres, ce qui était un grand bateau pour l'époque, et avec lequel, quand j'étais adolescente, on allait beaucoup naviguer vers l'Irlande, l'Écosse, l'Espagne, tous ces coins-là. Donc là, j'ai plutôt appris la croisière et un petit peu, on va dire, l'aventure, hein. Mais j'étais pas du tout compétition à l'époque, c'était pas l'esprit de la famille.
Alors, je suppose que toute cette période d'adolescence a été nourrie par des lectures, peut-être des films, et peut-être des rencontres de marins avant toi qui t'ont fait rêver.
Alors, évidemment, des lectures. Moi, je suis de l'époque de la fameuse collection Artaud. Donc, il y avait toujours dans les souliers à Noël, il y avait en général un ou deux bouquins. Donc, c'était Moitessier, c'était Damiens, c'était toute cette époque. Donc, pas tellement Tabarly, toujours pareil, pas très compétition. Des films, il y en avait quelques-uns. Justement, je me souviens d'être allé voir. Donc là, j'avais quand même à peu près 18 ans. Les films des Damiens quand ils rentraient de leurs 3 ans d'expédition et d'avoir été absolument subjugués par ces gens, les deux copains qui étaient allés aussi bien en Guyane qu'en Antarctique, qu'au Spitzberg, partout. Et donc dans ma tête au début, j'étais plutôt, je rêvais de grandes croisières, je rêvais déjà un peu de Cap Horn, en tout cas de mer lointaine et d'aventure et de partir longtemps, quoi.
Eh bien, et donc et après la course t'as rattrapé ou tu as rattrapé la course, l'envie de partir pour te mesurer face à l'océan et face à d'autres
Oui, alors ça a
continents.
été un peu, je veux pas dire par hasard, mais moi d'abord je me suis construit un bateau de 10 mètres en acier ici à La Rochelle. Après je suis parti un an avec, et c'est en revenant que j'ai cherché un peu qu'est-ce que je pouvais faire de plus ou en plus ou à côté pour assouvir mes envies de navigation. Et à l'époque j'avais des copains qui avaient fait la Mini Transat, qu'on appelle la Transat 650 maintenant, et je m'étais dit tiens. Ça a l'air sympa. Et puis, finalement, de faire la compétition, ça va aussi m'obliger à en apprendre plus parce que il faudra que je sois meilleur en météo, que je sois meilleur en voilà, préparation du bateau, tout ça. Et donc, c'est un peu par ce biais-là, c'est un peu par la curiosité, et par l'envie d'apprendre que je débarque dans la course au large.
Très bien. Et dans cette aventure qui commence de course, tu as un long palmarès. Peux-tu nous parler ou nous rappeler la victoire qui est la plus belle pour toi? Victoire sur toi, victoire sur les autres, victoire sur les éléments?
Oh ben heureusement, il y en a beaucoup, mais voilà, justement, je repense à cette course de la Mini Transat que je fais en 87. C'est la première course que je fais, c'est quasiment la première fois que je prends un départ, hein. Je suis vraiment de la bleusaille. Et puis, il n'y a qu'un seul truc que j'ai compris dans la course, c'est qu'il fallait être bon en météo. Et moi, j'ai travaillé la météo et je suis allé travailler avec, à l'époque, Pierre Lanier, qui était un grand routeur. Et dans la première étape, ben, je prends vite les bonnes options. Et en fait, j'arrive en tête aux Canaries. À l'époque, on n'avait pas de radio, on avait une petite VHF, mais on ne savait pas du tout ce qui se passait dans la course. Et je rentre dans le port et je vois personne dans le port et je me dis, je me suis trompée. Parce que j'ai pas envisagé que je pouvais être la première. Donc c'est vrai que ça, c'est un côté évidemment amusant. Après, je crois que celle dont je suis le plus fier, c'est la première étape du Bock Challenge en 94. Parce que là, vraiment, je ferai une première étape. Là aussi, je pense vraiment d'un point de vue météo, je suis dans tous les coups. Le bateau est très bien préparé. Je suis très à l'aise sur le bateau. Et je trouve que là, voilà, c'est d'avoir été un petit peu meilleur dans tous les compartiments du jeu, je pense, qui me permet cette victoire qui est aussi un très très bon souvenir.
Très bien. Et y a-t-il un moment heureux en mer? Il y en a sans doute de nombreux, bien sûr, qui restent vraiment gravés en toi.
Non, il y en a plein, évidemment, heureusement, parce que c'est ça qu'on va chercher. Il y a plein de moments où on est juste bien là où on est, quoi. On est là où il faut quand il faut. Bon, j'ai un petit clin d'œil. C'est la première fois que je rentre dans les mers du Sud, donc c'est le box avance de 90. Il se trouve que c'est le jour de mon anniversaire, donc c'est un bon moment pour passer les 40e. Et c'est une très belle journée, et il y a des albatros, c'est aussi un peu la première fois que je vois ces oiseaux, et voilà, il y a une espèce de cette lumière du Grand Sud, il y a une espèce de paix avec cette grande houle immense, mais qui est pas très dangereuse, hein, qui a une pente faible, ces oiseaux dont on a l'impression qu'ils font un balai avec les vagues, enfin tout ça est quand même, voilà, on se sent à la fois très petit humain, mais on se sent aussi très privilégié d'avoir la chance de voir ça, quoi.
Et jusqu'à ce fameux Cap Horn, au sud de l'Amérique du Sud, que tu as passé à de nombreuses reprises, est-ce que c'est si mythique que ça, le Cap Horn?
Ah ben oui, c'est le grand méchant loup, ça a toutes les raisons pour l'être. D'abord, c'est une pointe d'un continent, donc il y a des accélérations des vents, c'est un endroit où les fonds océaniques remontent très brutalement, c'est en plein dans le trajet des dépressions des 40e, donc en gros, il fait pas beau, et le pas beau devient très très mauvais, en général, aux approches du Horn. Donc oui, il y a toutes les... Et en même temps, passer le Horn quand on arrive du tour du monde, c'est un peu la délivrance, puisque après, en gros, on met le clignotant et on remonte dans l'Atlantique. Donc c'est à la fois un moment qu'on redoute un peu et qu'on espère. Donc c'est les deux. Donc on se dit, pourvu que au moment où je vais y arriver, je sois dans la dorsale, je sois entre deux dépressions, que ce soit pas trop méchant. Bon, après, évidemment, on prend ce qu'il y a, mais c'est très symbolique et tous les marins qui s'intéressent à la navigation ont en tête cette silhouette. Assez particulière, hein, bien sûr, du Cap Horn. On le passe pas toujours très près, justement, pour éviter les grosses mers, mais quand on a la chance de pouvoir le passer, voilà, il y a toute l'histoire des marins derrière soi, avec soi, et donc oui, c'est quand même dans l'histoire de la marine mondiale, c'est quand même un lieu très symbolique.
Oui, et on admire tous ces caporniers, évidemment. Un marin, c'est une femme, un homme qui doit savoir tout faire, et souvent le mieux possible pour parvenir à ses fins. S'il y avait une seule qualité ou une seule vertu que la mer avait exigée de toi,
J'ai envie de dire, c'est la sérénité. En mer, quand je dis sérénité, c'est aussi l'harmonie avec son bateau, avec la mer, avec les conditions, avec l'équipage, quand on a un équipage, avec, voilà. C'est pas que de la mécanique, le bateau. C'est aussi un état d'esprit, c'est aussi des bonheurs, c'est aussi parfois des angoisses. Et le fait d'être suffisamment sereine en mer, d'être heureuse d'être là, de savoir pourquoi on est là, d'être prête à accueillir tout ce qui vient de manière la plus simple possible et la plus naturelle possible, je crois que ça participe. Après, évidemment, il faut apprendre plein de choses, mais on peut toujours apprendre plein de choses, c'est pas le problème. Cet état d'esprit, cette espèce de façon de s'abandonner aussi à l'océan et d'y être bien, je pense que pour moi, c'est primordial.
Très bien. Et quels sont tes projets
Ben, mes projets ne sont plus depuis longtemps des projets de course, ce sont des projets de croisière toujours hôturière et plutôt polaire, puisque pendant longtemps j'étais plutôt du côté de l'Antarctique et de la Patagonie, maintenant je suis plutôt du côté du Spitzberg et du Groenland. Donc je pars toujours 2 mois, 2 mois et demi, parfois 3 mois par an pour aller là-bas, et si possible en compagnie de gens qui vont y accomplir soit des artistes, soit des scientifiques, soit des sportifs, des alpinistes. Enfin voilà, j'essaye de joindre l'utile à l'agréable et aussi de passer du temps vraiment dans ces endroits-là.
Très bien, très bien. Merci Isabelle. Tu sais que La Rochelle est très fière de ton aventure, qu'on la connaît ou on la connaîtra mieux après avoir écouté ces quelques mots que tu nous as délivrés. Et on est fier aussi de tous les coureurs au large et notamment des caporniers.
Voilà, puis on est très fiers de Yannick en ce moment, bien sûr.
Absolument. Merci.